Bonjour à tous et à toutes. Tonio vous a indiqué de vous tourner dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 3. On va continuer. Savez-vous quelle est la maladie responsable du plus grand nombre de décès dans les pays industrialisés ? En France, c'est intéressant, c'est le cancer est la première cause de décès. Mais dans l'ensemble des pays industrialisés, c'est une maladie qui n'est pas facile à orthographier. C'est l'athérosclérose. Pas l'artéro, mais l'athérosclérose. Et en fait, elle est responsable de 50% des causes de mortalité dans les pays dits développés. Et ça, c'est l'endurcissement ou la sclérose des artères qui est due à l'athérome, A-T-H-E, accent aigu, R-O-M-E. Et ça, c'est l'athérome, c'est tout ce qui est surcharge en graisse de la paroi des artères. Ça s'attaque en particulier aux deux artères coronaires, les artères qui alimentent le cœur. Elles provoquent leur durcissement, leur épaississement, une perte d'élasticité, avec un dépôt de substances lipidiques, c'est-à-dire des substances grasses et calcaires. Bref, c'est le cholestérol et tout ce qui s'ensuit. Les hommes sont plus touchés que les femmes parce que jusqu'à la ménopause, les femmes sont protégées par leurs hormones. Cette maladie terrible est favorisée par l'hérédité. Selon nos parents, on peut avoir une prédisposition. L'obésité, les habitudes alimentaires, le tabac, l'hypertension, la sédentarité, les nourritures grasses et les gâteaux d'anniversaire. Zut alors. On pourrait simplifier cette définition médicale en disant que ce sont les tuyaux qui s'encrassent et durcissent. Un peu comme à Nice où l'eau est très calcaire, les robinets souvent ne marchent plus très bien, il faut changer les tuyaux qui sont bien abîmés. Et en fait, aujourd'hui, on va voir dans notre texte qu'il existe une maladie spirituelle analogue, comparable, et qui est tout aussi dangereuse. On pourrait appeler ça la cardiosclérose, l'endurcissement du cœur. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui est vivante, qui est la vérité, qui nous reprend, qui nous instruit, qui nous prépare à toute œuvre bonne. Seigneur, aide-nous à recevoir ce que tu as à dire à chacun ce matin. Seigneur, nous voyons des habitudes, des choses qui peuvent être insidieuses, mais qui nous causent le plus grand tort. Seigneur, montre-nous ce que tu as à nous dire sur l'endurcissement de nos cœurs, pour que nous puissions, avec ton aide, Seigneur, en tirer les conclusions, les changements de vie que nous devons adopter pour éviter une mort spirituelle, Seigneur. Sois béni, sois glorifié ce matin dans cette assemblée et dans toutes les autres assemblées qui se réunissent dans notre ville, dans notre région, dans notre pays. Seigneur, touche nos contemporains. Aide-nous à être des témoins vivants. Aide-nous à être des témoins en bonne santé pour pouvoir être des témoins fidèles, Seigneur. Sois glorifié. Par ton nom, nous prions. Amen. vous invite donc à lire avec moi la lettre aux Hébreux, le chapitre 3. Et on va lire les versets 7 à 19. Le texte commence par un « c'est pourquoi ». Et lorsque le texte dit « c'est pourquoi », ça veut dire que ça se rapporte à ce qui a été dit auparavant. Et auparavant, on a déjà vu la supériorité de Christ sur tout autre prophète, ange, même vis-à-vis de Moïse. Et dans le dernier passage, le début du chapitre 3, Jésus-Christ était montré supérieur à Moïse parce que si Moïse était fidèle comme Jésus l'a été, il était en fait celui qui s'occupait de la maison de Dieu, alors que Jésus-Christ, c'est lui qui l'a construite. Moïse, c'était un serviteur, alors que Jésus, c'est le Fils. Et il termine en disant, le verset 6, « Sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous tirons notre fierté. » C'est un thème qui revient. Est-ce que je suis vraiment sauvé ? Est-ce que je suis vraiment, est-ce que j'appartiens vraiment au Seigneur ? Et on le reverra plus loin. Le vrai test de votre foi, c'est votre persévérance. Si à la fin de votre vie, vous croyez toujours, vous pouvez dire « oui, j'ai vraiment été sauvé ». Et c'est ce qu'on appelle des fois la persévérance des saints. Et c'est la preuve que vous pouvez vous donner à vous-même et que les autres peuvent voir aussi pour savoir que vous appartenez vraiment à Christ. Verset 7, c'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte, comme le jour de la tentation dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont provoqué, ils m'ont mis à l'épreuve et ils m'ont vu agir pendant 40 ans. C'est pourquoi j'ai été irrité contre cette génération et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Aussi, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. En effet, nous sommes devenus les compagnons de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin notre position première. Aussi longtemps qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte. Qui s'est en effet révolté après avoir entendu ? N'est-ce pas tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse ? Contre qui Dieu a-t-il été irrité pendant 40 ans ? N'est-ce pas contre tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse ? Contre qui Dieu a-t-il été irrité ? N'est-ce pas contre ceux qui avaient péché et dont les cadavres, d'autres versions disent les carcasses, les cadavres sont tombés dans le désert. Et à qui a-t-il juré qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi ? Ainsi, nous voyons qu'ils n'ont pas pu y entrer à cause de leur incrédulité. Nous allons nous arrêter là. Et donc, la lettre est adressée à des chrétiens, à des juifs, qui sont tentés de renoncer à leur foi en Christ sous la pression d'un environnement hostile à leur foi, sous la pression de persécutions. Et il nous a déjà mis en garde de négliger un si grand salut. Le si grand salut offert par Christ, ici, il va nous mettre en garde contre le danger de la cardiosclérose, du danger d'endurcir son cœur qui mène tout droit à l'incrédulité, au manque de foi. Bien sûr, il s'adresse à ces chrétiens juifs du premier siècle, mais il s'adresse aux chrétiens de tous les âges, et en particulier à nous tous qui sommes réunis ce matin au 10 avenue Aimé Martin, pour actualiser un peu le message. Dieu veut nous parler, il a des choses importantes à nous dire. Et c'est vrai que lorsque j'ai enseigné la parole de Dieu, j'ai toujours un peu un respect, une révérence, un sens de la responsabilité qui m'est donnée de vous communiquer des vérités fondamentales et critiques pour votre vie ici-bas, votre vie éternelle. Il va d'abord nous donner une illustration. Et en fait, si selon la Bible que vous avez peut-être une référence au psaume 95 et les passages, les versets 7 à 11, ça correspond aussi au psaume 95. La Bible est toujours le meilleur commentaire sur la Bible et c'est important de voir comment l'auteur nous met en garde en reprenant des passages bibliques. Donc si vous allez dans le psaume 97, au verset 7, on chante souvent ce chant, « Il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. » Et là, il ajoute « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Meriba, lors de la journée de Massa dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont provoqué, ils m'ont mis à l'épreuve, bien qu'ils m'aient vu agir. Pendant 40 ans, j'ai eu cette génération en dégoût et j'ai dit « C'est un peuple dont le cœur s'égare ». Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Un épisode donc d'Israël, de la vie du peuple d'Israël, qui est destiné à nous instruire, nous, sur qui la fin des temps est arrivée. Ça, c'est Paul qui le dit dans un passage de Corinthiens, dans 1 Corinthiens, qui dit que toutes ces choses sont arrivées pour nous servir d'instruction. Et on peut déjà remarquer que on a dit que c'était, et il va le répéter dans Hébreux 4, 7, l'auteur de ce psaume, c'est David. Et là, il nous dit, c'est pourquoi, verset 7 dans Hébreux 3, c'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit. Alors on pourrait se dire, là, il y a un problème. C'est bien la preuve que la Bible n'est pas fiable. Il nous dit que c'est le Saint-Esprit, alors qu'on sait que c'est David qui a été l'auteur de ce psaume. Justement, ça parle, bien sûr, vous le savez, de l'Esprit Saint qui écrit la Bible en inspirant des auteurs humains. Pierre l'a dit dans 2 Pierre 1:21, si vous voulez vous rappeler, 2:1. Pierre, c'est moi qui vous dis 2:1. 2 Pierre 1:21, maintenant vous pourrez vous en rappeler. Ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. La Bible est inspirée. Toute écriture, nous dit Paul dans 2 Timothée 3:16, toute écriture est inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Toute écriture est inspirée, une meilleure traduction serait toute écriture est expirée par Dieu. C'est soufflé par Dieu. Le mot grec, c'est Dieu qui souffle. Et c'est important de le savoir. Nous sommes là avec des textes qui sont la parole de Dieu. Aujourd'hui, on a des tas de sources d'informations, de désinformations. On est bombardé. De plus en plus, maintenant c'est un niveau incroyable. On a des petits appareils, des petits smartphones, on peut plonger dans des océans d'affirmations, de questions, d'opinions, de déclarations, que ce soit dans le monde politique, dans le monde de la science. Et pourtant, on a à portée de main quelque chose qui est solide, quelque chose qui va nourrir notre âme, quelque chose qui va nous préparer à la vie ici-bas, à la vie future. Quel privilège nous avons. Et pourtant, moi-même, pas que je sois un exemple, mais combien de fois je néglige cette parole. Et c'est donc le Saint-Esprit qui disait, par la voix de David, et qui est repris par l'auteur de la lettre aux Hébreux. Certains pensent que c'est Paul, d'autres pensent que non, mais peu importe, on sait que c'est le Saint-Esprit qui le dit, qui nous dit, donne cette lettre. Et le Saint-Esprit se cite lui-même. Il a le droit de le faire, n'est-ce pas? Il est Dieu, il est tout-puissant, et il nous dit... Aujourd'hui, c'est une magnifique promesse. C'est aujourd'hui, tout peut changer. Aujourd'hui, Dieu veut agir. Aujourd'hui, Dieu veut vous fortifier. Aujourd'hui, Dieu veut se glorifier. Aujourd'hui, tout est possible avec lui. Aujourd'hui. C'est intéressant parce qu'en fait, quand on y réfléchit bien, tout ce qui nous est donné, c'est aujourd'hui. Hier est passé, et plus ça devient loin, plus les souvenirs s'estompent, moins on est sûr de ce qui a été vraiment dit, de ce qui a vraiment été... ce qui s'est vraiment passé, tout ce que nous avons, c'est aujourd'hui. Et nous avons tendance à vivre demain, à vivre dans le futur. Je crois qu'un des secrets de la joie, de l'insouciance des enfants, c'est qu'ils vivent le moment présent, aujourd'hui. Nous, on a tendance à ne pas mettre l'accent, à oublier ce qui se passe tout de suite, en ce moment, devant moi, autour de moi, aujourd'hui, pour se faire du souci pour ce qui peut se passer lundi ou ce qui va se passer dans 6 mois. Mais l'Esprit-Saint nous dit aujourd'hui. C'est aussi un commandement solennel. Aujourd'hui. Il y a urgence. N'attendez pas. Aujourd'hui, ne faites pas ce qui serait préjudiciable à votre santé spirituelle. Aujourd'hui, ne remettez pas au lendemain. Il y a un auteur qui a écrit un commentaire sur le livre La lettre aux Hébreux, qui s'appelle Andrew Murray, qui est d'Afrique du Sud à l'origine. Et il dit que rien n'endurcit le cœur comme d'ajourner l'obéissance. Si vous prenez des notes, c'est quelque chose à noter. Vous faites-en une note mentale. Rien n'endurcit le cœur comme d'ajourner l'obéissance. Dieu me dit de faire quelque chose aujourd'hui. Aujourd'hui, Pierre. Mais pour une raison ou pour une autre, par paresse, par fainéantise, par l'accumulation de choses que je pense importantes ou prioritaires, je ne fais pas ce que Dieu me demande aujourd'hui. Et ça, quand j'ajourne l'obéissance, lorsque Dieu me dit de faire quelque chose et que je ne le fais pas tout de suite, aujourd'hui, ça a tendance à endurcir mon cœur, comme du cholestérol. La prochaine fois que vous voyez du beurre, du lait gras, demandez-vous, est-ce que je suis en train d'ajourner l'obéissance ? Vous allez être bizarre si vous dites à vos amis, je suis en train de penser à est-ce que j'ajourne l'obéissance quand je vois toute cette graisse ? Parce que ça va endurcir votre cœur, ça va le rendre de moins en moins souple devant Dieu. Qu'est-ce que le cœur ? On sait que c'est l'organe du système sanguin qui agit comme une pompe et qui nous permet d'irriguer tout notre corps avec le sang, le liquide qui nourrit les cellules, etc., qui amène de l'oxygène, qui emmène des déchets et qui nous permet de vivre en fait. Mais spirituellement, même pour les gens dans l'Antiquité, le cœur, c'était la personnalité, ça pouvait nous définir, notre cœur. Quelqu'un a dit, le cœur, c'est l'oreille qui entend la voix de Dieu, c'est l'œil qui peut voir Dieu et le monde invisible. On a un chant qu'on chante des fois, parfois, qui dit que Dieu est ici. Vous ne pouvez pas le voir avec les yeux de votre corps, mais vous pouvez le voir avec votre cœur. C'est un organe de perception qui nous permet de connaître, de recevoir tout ce que Dieu désire nous communiquer. C'est notre esprit, en quelque sorte, qui est à l'écoute de Dieu. Et de la même façon, ce cœur, il faut veiller à ce qu'il ne s'endurcisse pas. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ça veut dire que votre cœur est encore capable de recevoir de lui. Votre esprit n'est pas fermé. Vous pouvez encore être en communication avec Dieu. Mais si vous laissez des choses endurcir votre cœur, comme l'obéissance reportée, l'obéissance ajournée, alors à ce moment-là, votre cœur va se durcir et vous allez être de moins en moins capable de l'entendre. Et il prend l'illustration de la révolte des Juifs, ce qu'il appelle le jour de la tentation ou le jour de la mise à l'épreuve. Et là, il nous dit, vos ancêtres, c'était les nôtres aussi, vos ancêtres m'ont provoqué. Une autre traduction serait, ils m'ont exaspéré. Dieu peut être exaspéré par notre conduite. Nous pouvons attrister le Saint-Esprit. Nous pouvons mettre Dieu en colère par la façon dont nous vivons, surtout la façon dont nous traitons Dieu. Vous vous souvenez que les Israélites, les Juifs, étaient esclaves en Égypte. Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, a permis de libérer son peuple. Ils ont pu sortir, il y a eu des grands miracles. La mer des joncs s'est ouverte, ils ont pu passer à pied. Lorsque les troupes qui les poursuivaient, les troupes égyptiennes du Pharaon, ont essayé de les suivre, ils ont été engloutis par les eaux. C'est un miracle fantastique, incroyable. Et puis non seulement ça, mais une fois qu'ils sont arrivés de l'autre côté, Dieu leur a donné les commandements, mais Dieu les a nourris. Il leur a donné la manne qui était cette nourriture pourvue chaque jour, sauf le jour du sabbat, mais il y en avait la veille, il y en avait une dose supplémentaire. C'était encore une fois une provision miraculeuse. Et puis, ils avaient soif. Dieu a pourvu de l'eau. Moïse a pu frapper sur le rocher et obtenir de l'eau fraîche qui les a désaltérés. Mais devant tous ces miracles, devant toute cette sollicitude, cet amour de Dieu qui était manifesté par le grand soin qu'il prenait d'eux, ils ont mis Dieu à l'épreuve. Ils l'ont mis à l'épreuve. D'abord, ce sont vraiment nos ancêtres, nous qui sommes français, parce qu'ils ont rouspété. Ils ont râlé. Ils ont dit, la manne, d'accord, ça nourrit son homme, mais j'en ai marre tous les jours, la manne au petit-déj, la manne à midi, la manne le soir. Ah, si seulement on pouvait retourner en Égypte. On était esclaves là-bas, mais c'est pas grave, mais on mangeait des poireaux. Oh, ces poireaux, tu te rappelles le goût de ces poireaux? Ce truc-là, on dirait du pop-corn pas assaisonné. La manne, du pop-corn toute la journée. Ils ont même demandé à Dieu qu'il leur donne un peu de viande. Et Dieu leur a envoyé des cailles. Mais il a dit, vous voulez des cailles, vous voulez de la viande, vous allez voir, je vais vous en donner. Non seulement il leur a donné quelques cailles, mais il leur en a donné tellement que ça leur sortait par les oreilles. Ils en mangeaient tellement, ils n'en pouvaient plus non plus. Et il a parlé du fait qu'ils allaient tous mourir et que ils seraient enterrés dans les tombes de la convoitise. Kibroth Hatahava, c'était le nom de cette mort, les tombes de la concupiscence, les tombes du désir, les tombes de la goinfrerie. Vous voulez, il les a punis comme ça. Et ils l'ont mis à l'épreuve, ils ont mis Dieu à l'épreuve, ils l'ont testé. Quand on rouspète, ça c'est bon à dire à tous les Français, à moi-même, quand on rouspète, contre qui on rouspète en fait? Contre celui qui agence, qui arrange votre vie. On pense qu'on rouspète contre tel homme politique ou contre tel produit mal fait, mais en fait on se plaint de notre sort, donc on se plaint de notre existence, on se plaint à Dieu, on se plaint de Dieu, on dit Dieu, en fait, ce que tu fais, c'est regarde l'état du monde politique en ce moment, c'est pas possible, qu'est-ce que tu fais? Ils ont marché pendant 40 ans, ils ont marché en rond dans le désert qui les séparait du Sinaï, de l'entrée en terre promise, de Canaan. Pourquoi ? parce qu'ils ont manqué de foi. Ils ont pris 40 ans pour quelque chose qui pouvait être fait non pas en 20 ans, non pas en 10 ans, non pas en 5 ans, non pas en 1 an, non pas en 6 mois, non pas en 1 mois, quelque chose qui pouvait être fait directement en 11 jours. On peut aller du Sinaï à l'entrée de la terre promise en suivant la voie directe en 11 jours. Et pendant 40 ans, Dieu a quand même pourvu à leurs besoins. Il les a guidés pour leur montrer la voie avec la nuée ardente et la nuit et la colonne de fumée dans la journée. Mais ils ont manqué de foi. Et vous vous souvenez sans doute lorsqu'ils sont arrivés à Kadesh Barnéa, c'est l'endroit où ils étaient à la porte de la terre promise, de Canaan, ils n'ont pas voulu faire confiance à Dieu qui les avait guidés jusque-là. Et donc ils ont envoyé 12 espions. C'est dans le livre des Nombres au chapitre 13. Ils ont envoyé 12 espions qui ont exploré la terre promise pendant 40 jours. Pendant 40 jours. Et puis vous savez que, on peut regarder rapidement, Nombres 13, 25. Juste avant, il est décrit « Les hommes montèrent et explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le sud et allèrent jusqu'à Hébron, où se trouvaient Aïmanche, Séchaï et Talmaï, les descendants d'Anak. Hébron avait été construite 7 ans avant Tsoan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshkol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin. Ils la portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On appela cet endroit vallée d'Eshkol, qui veut dire grappe, à cause de la grappe que les Israélites y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse, d'Aaron et de toute l'assemblée des Israélites à Kadesh Barnéa, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. » Mais, les mais des hommes, ça c'est toujours grave lorsque on dit à Dieu, on dit mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées très grandes. Nous y avons vu des descendants d'Anak, les Amalécites, descendants d'Amalek, habitent la région du Sud, les Hittites, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne et les Cananéens habitent au bord de la mer Méditerranée et le long du Jourdain. Caleb, l'un des envoyés, fit taire le peuple qui murmurait, qui rouspétait contre Moïse et il dit « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs ». Mais les hommes qui l'avaient accompagné dirent « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak qui sont issus des géants. À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. » Petites sauterelles. Et un manque de foi total. Heureusement, il y avait deux hommes. Il y avait Josué, celui qui allait devenir le leader après la mort de Moïse. Et cet homme, Caleb, qui disait que, en fait, c'est certes, il y a des obstacles, mais avec Dieu, nous pouvons vaincre. Avec Dieu, nous pouvons vaincre. finalement, deux avaient montré de la foi en la promesse de Dieu et 10 ne l'avaient pas fait. Les seuls qui sont entrés en terre promise, ça a justement été ceux qui ont fait preuve de foi, ceux qui ont fait confiance à Dieu. Dieu avait dit, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Ça c'est Nombre 14, 11. Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi malgré tous les signes que j'ai accomplis au milieu de lui? Encore une fois, il y avait eu des tas de miracles, de provisions miraculeuses, de protections miraculeuses. Et là, Dieu leur ouvrait la porte pour entrer en terre promise. Au lieu de lui faire confiance et aller directement, ils ont dit « on va aller voir d'abord ». Et puis après avoir vu, vous rappelez, c'est un pays super riche, des grappes de raisins, il faut les porter à deux hommes. Et pourtant, ils disent « oui, mais on ne peut pas y aller parce qu'il y a des géants ». Il y a des ennemis trop puissants. Dans Nombre 14, 22, il est dit « Ces hommes ont vu ma gloire et les signes que j'ai accomplis en Égypte et dans le désert. Ils m'ont provoqué déjà 10 fois et ne m'ont pas écouté. Aucun d'eux ne verra le pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Aucun de ceux qui m'ont méprisé. » Le manque de foi, c'est du mépris aux yeux de Dieu. Aucun de ceux qui m'ont méprisé ne le verra. Quant à mon serviteur Caleb, parce qu'il a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et sa descendance le possédera. Et puis Dieu promet vos cadavres, les carcasses hein, dont on a parlé tout à l'heure, vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus qui avez murmuré contre moi, rouspété contre moi, vous n'entrerez pas dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter. Aucun de vous n'y entrera excepté Caleb, fils de Jéphunné, et Josué, fils de Nun. Quant à vos petits-enfants, eux dont vous avez dit qu'ils deviendraient une proie, je les y ferai entrer, ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert et vos enfants seront nomades pendant 40 ans dans le désert. Ils supporteront les conséquences de vos infidélités jusqu'à ce que tous vos cadavres soient tombés dans le désert. Vous avez mis 40 jours à explorer le pays. Vous supporterez donc les conséquences de vos fautes pendant 40 ans. Une année pour chaque jour. Ainsi, vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront détruits dans ce désert et ils y mourront. Ils avaient fait une assemblée générale, mais c'était une assemblée générale qui manquait de foi. Il n'y en avait que deux sur les 12 qui croyaient aux promesses de Dieu. Alors l'analogie spirituelle, vous la connaissez sans doute, c'est que l'Égypte, ça représente notre vieille nature. Lorsque nous venons à Christ qui a versé son sang, c'est comme l'agneau pascal qui est sacrifié et qui montre que le jugement est déjà tombé, et qui permet aux Juifs de sortir d'Égypte. La terre promise, ce n'est pas le ciel. C'est pas. Il y a beaucoup d'anciens chants des négros spirituels qui parlent de passer du Jourdain comme si on arrivait tout de suite au paradis. Non, parce qu'en terre promise, vous l'avez vu, on le verra, il y avait des combats, il y avait des tentations, il y avait des dangers, il y avait des échecs. La terre promise, en fait, c'est une image de la vie abondante que Dieu nous promet ici-bas. c'est la vie qui est vécue pour Dieu, qui n'élimine pas nécessairement les obstacles. On peut être persécuté tout en ayant cette paix intérieure. On y reviendra dans le chapitre 4, cette notion de repos. Et Dieu donc s'est mis en colère contre ce peuple qui a montré de l'incrédulité. C'est pourquoi j'ai été irrité, exaspéré, et il leur a dit, ils ont un cœur qui s'égare. C'est le même mot que les planètes. Ils tournent, on ne sait pas où. Dieu a dû les faire tourner 40 ans. Encore une fois, ce n'était pas une question de distance. C'était pour donner le temps à toute cette génération qui avait manqué de foi de mourir. Et pouvoir recommencer avec les petits-enfants et les faire rentrer et les bénir. Leur cœur s'égare toujours. Au cœur de chaque problème, il y a un problème dans le cœur. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez tester dans tout ce que les nouvelles que vous voyez dans les médias. On dit oui, mais par exemple, des inondations qui engloutissent des maisons, c'est un acte de Dieu, comme disent les assurances. Non, en fait, c'est parce qu'il y a des promoteurs véreux qui, par intérêt de l'argent, parce qu'ils avaient un problème dans leur cœur de convoitise matérielle, ont soudoyé les municipalités qui ont pris l'argent pour pouvoir laisser construire des choses, même si on savait qu'il y avait un danger d'inondation. Et on pourrait prendre la plupart de toutes les situations. Au cœur de chaque problème, c'est le problème qui est dans mon cœur. Ils avaient aussi un cœur méchant, un cœur mauvais et incrédule, qui détourne du Dieu vivant. Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous, verset 12, n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Et on parlait de ça à notre réunion de prière à Sofia la semaine dernière. On est reconnaissant pour les miracles que Dieu fait dans notre vie. On le voit agir et on se dit « Waouh, Dieu est puissant !» Et puis on est devant une nouvelle épreuve. Et là, au lieu de se nourrir de la foi que la réalisation de la protection divine ou la provision divine, on est comme si on n'avait jamais rien connu de la provision, de l'amour, de la protection divine. Notre cœur est si prompt à s'éloigner de la confiance en Dieu. Est-ce que vous avez des inquiétudes pour demain, lundi ou mardi, peu importe, dans le futur, est-ce que vous avez des inquiétudes, que ce soit dans le domaine de la santé, de votre santé, dans le domaine de vos relations familiales, de vos relations amoureuses avec quelqu'un, dans vos projets de travail, dans votre emploi, dans votre logement? Est-ce que vous avez des inquiétudes? Est-ce que vous ne pouvez pas vous souvenir de moments où Dieu s'est montré fidèle, des moments où il a pourvu, des moments où il vous a aidé de façon qui ne pouvait qu'être de Dieu. Ils n'ont pas connu mes voies. C'est le mot qui signifie connaître par expérience. Ils avaient fait quand même des expériences, mais c'est comme s'ils n'avaient pas fait d'expérience personnelle avec Dieu et ils doutaient de Dieu. Un cœur mauvais et incrédule. qui nous détourne du Dieu vivant. Là, on ne parle pas d'une religion, on ne parle pas de venir à l'église parce que c'est une belle tradition, c'est bien d'animer un peu les cathédrales qui se trouvent dans le centre de nos, les centres urbains de nos belles villes de France. Non, on parle d'une relation vivante avec le Dieu vivant de l'univers. Un cœur mauvais et incrédule, traduction plus exacte, ce serait un cœur méchant d'incrédulité. Et le mot incrédulité, c'est simplement en grec, c'est le mot qui veut dire foi, avec le petit préfixe qui veut dire sans foi. L'incrédulité, c'est le manque de foi. Si je vous demandais de penser au plus terrible des péchés auxquels vous pouvez songer, vous n'avez pas besoin de me dire ce que c'est, pas nécessairement un péché que vous avez commis vous-même, mais la chose la plus terrible à laquelle vous pouviez penser. Peut-être vous penserez à des crimes de meurtre et de sexualité pervertie, des meurtres de destruction massive, je ne sais pas ce qui... Arrêtez-vous là. Le plus grand des péchés, c'est l'incrédulité. De lui viennent tous les autres péchés. De lui vient le fait que, comme je ne fais pas confiance à Dieu, je vais aller faire autre chose que d'obéir à Dieu. Verset 13, une instruction très forte. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse trompé par le péché. Est-ce que vous savez qu'on est appelé à être le Saint-Esprit les uns pour les autres? Toute proportion gardée, je dis ça parce qu'en fait le mot qui est traduit par « encouragez-vous », c'est le mot qui nous donne le mot paraclé, celui qui vient à côté, celui qui vient aider, c'est un des titres du Saint-Esprit. Mais on est appelé à s'encourager les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Et on a vu qu'en fait, aujourd'hui, on peut le dire jusqu'à la fin de nos jours. C'est-à-dire pour toujours. Et en même temps, il y a ce sens d'urgence, il y a cette promesse, il y a cette... commandement solennel, cet avertissement terrible, aujourd'hui, encouragez-vous les uns les autres. Il y a une étude très intéressante dans le Nouveau Testament de rechercher toutes les expressions qui utilisent la phrase « les uns les autres ». Elu, Ella, Lula, Lula, les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Supportez-vous les uns les autres. Encouragez-vous les uns les autres. Et ça, c'est formidable. Ça nous dit qu'en fait, dans ce combat pour la foi, pour que on n'ait pas le cœur qui s'endurcisse et qu'on déplaise à Dieu, qu'on n'entre pas dans son repos, on a tous un rôle à jouer. La vie chrétienne, encore une fois, c'est pas fait pour être vécue tout seul de son côté. Des fois, on aspire à ça parce que là, on se dit, là, je me dispute plus avec quoi, quiconque. Ça, c'est plus tranquille. Et puis, je lis ma Bible. Non, vous la lisez pas parce que sinon, vous sauriez qu'il faut être auprès des autres. La vie chrétienne, c'est fait pour être une vie du corps de Christ. C'est comme si le cœur disait, ou on ne va pas prendre le cœur parce qu'on vient d'en parler, si le foie disait « je vais aller vivre tout seul, je vais me mettre dans un bocal, je vais m'assurer qu'il y a du sérum physiologique pour que je continue de vivre, entre guillemets, de ne pas être pourri. » Non, si vous n'êtes pas connecté, vous ne servez à rien. La partie la plus importante du dimanche matin, c'est pas le temps de louange, C'est pas l'enseignement, c'est le temps que vous passez les uns avec les autres, si vous le passez en vous exhortant, en vous encourageant, en priant les uns pour les autres, en citant la parole, en citant ce qui a été partagé le matin, c'est là que se produit le plus grand ministère, dans une église saine. Alors c'est vrai que des fois, ça peut être 15 minutes après le culte et tout le monde repart. C'est pas pour dénigrer le temps de louange, ni bien sûr l'enseignement auquel nous tenons essentiellement, mais c'est pour dire que les uns les autres, vous avez une part à jouer dans l'église. Il faut que vous vous encouragiez, alors ça veut dire venir à côté, ça peut être pour reprendre. Si vous aimez vraiment quelqu'un dans l'église et que vous le voyez faire quelque chose qui n'est pas selon la volonté de Dieu, de façon évidente, vous devez reprendre cette personne. Sinon, votre foi est vaine, sinon votre amour est un amour en parole. Est-ce que j'ai le courage des fois de reprendre mes frères, mes sœurs, si je sais qu'il y a des problèmes dans leur vie? Ça, c'est une façon de reprendre les autres, mais aussi de les encourager, de leur dire « on va prier pour que telle chose se passe dans ta vie, pour que tel malheur ne se produise pas ou soit soulagé ». Et ça, cet encouragement qui est votre tâche à tous, pas seulement le pasteur, ça permet, ça évite la sclérose de votre cœur. Ça évite que vous vous endurcissiez, virgule, trompé par le péché. Trompé par le péché. La tromperie du péché, c'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose d'insidieux, c'est quelque chose qui nous tombe dessus, qui nous affecte si on n'est pas vigilant. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on me dit toujours d'être sur mes gardes, d'être vigilant, on aspire au repos où on peut faire confiance à tout le monde, on peut faire confiance à notre vieille nature, mais ce n'est pas le cas. Et le péché, sa force, c'est qu'il nous séduit. Il nous promet quelque chose qui, à long terme, va s'avérer un mensonge. On peut être flatté, on travaille, il y a la secrétaire qui nous fait des sourires, qui est bien sympathique, et puis on se laisse aller de fil en aiguille, et puis on se retrouve à commettre l'adultère. On détruit une famille, on détruit nos enfants. Mais au départ, le péché nous disait « Hé, ça serait... elle est bien, hein ?» Et on est « Oh, oui !» Comme des bêtes qu'on amène à l'abattoir. Le péché trompe. Si le péché n'avait pas quelque chose d'attrayant, Satan ne ferait faillite. Mais le péché est toujours quelque chose qui a un côté attrayant. Je sais que quand je vais, ça fait un moment que je n'y suis pas allé, à la pêche aux poissons, j'essaye de mettre sur l'hameçon des choses attrayantes. Ça peut être un bel asticot, ça peut être un beau ver de terre, ou alors des trucs en plastique de toutes les couleurs qui scintillent au soleil. Et là, le poisson va aller pour ce qui lui paraît être quelque chose de bon, et il va sentir la douleur de l'hameçon qui lui arrache la mâchoire. Il va se retrouver avec la bouche toute déglinguée. Comme dirait Gad Elmaleh, c'est un très bon sketch d'ailleurs. Il n'entre pas dans le repos, le poisson. Encouragez-vous les uns les autres aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse trompé par le péché. Soyez proche de vos amis dans l'Église. Veillez avec eux, priez pour eux. Et puis, il nous dit, en effet, nous sommes devenus les compagnons de Christ, où nous participons à la vie en Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin notre position première. Ça aussi, c'est une autre façon de dire ce qu'on a vu au verset 6, dont j'ai parlé au début. C'est que la preuve que vous êtes compagnon de Christ, que vous participez à sa vie, c'est que vous allez tenir jusqu'au bout. Vous allez retenir fermement jusqu'à la fin votre position première. Lorsqu'il disait, juste une précision, vous avez peut-être entendu parler du terme apostasie. Il y avait un des pères de l'Église qu'on appelait, ou un des chrétiens des premiers siècles qu'on appelait Julien l'apostasie. Ce n'est pas des apôtres. Apostasie, ça veut dire se détourner de Dieu. Et c'est le terme qui est utilisé, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Ici, il dit, vous allez savoir que vous n'êtes pas détourné si vous êtes là encore à la fin. C'est tout bête, mais c'est la seule façon de savoir, parce que notre cœur, il est tortueux par-dessus tout. Nul ne peut le connaître, nous dit le prophète. Il reprend, verset 15, « Aussi longtemps qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte. » Donc, le Saint-Esprit, il répète ce concept de ne pas endurcir votre cœur trois fois. On pourrait même dire quatre fois. Il y a la description dans le livre des Nombres, il y a le psaume, et puis là, il vient de le dire au verset 8, et maintenant, il le répète au verset 15. Est-ce que vous avez entendu sa voix? Est-ce que vous l'avez reçue claire? 5/5 ou pas? On n'a plus l'excuse de dire « je ne savais pas ». Aujourd'hui, maintenant, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte. Qui s'est en effet révolté après avoir entendu? N'est-ce pas tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Contre qui Dieu a-t-il été irrité pendant 40 ans? N'est-ce pas contre ceux qui avaient péché et dont les cadavres, les carcasses sont tombées dans les airs? Et à qui a-t-il juré qu'il n'entrerait pas dans ce repos, sinon ceux qui avaient désobéi. Le repos, on va y revenir plusieurs fois dans le chapitre suivant. Le repos, c'est pas la notion de je suis crevé, j'ai besoin de me recharger les batteries, je me repose, même s'il y a une dimension qui est réelle. C'est plus le sentiment d'arrêter le travail parce que ce qu'on a fait est complet. On a fini. C'est bon, c'est bien, on est content, on peut se reposer. On sait que il y a plusieurs types de repos. Il y a le repos de Dieu, de la création. Lorsque Dieu vit qu'il avait tout ce qu'il avait créé, il dit que c'était bien, c'était bon, et il prit un repos. Et il nous intime, après les 10 commandements, nous disent de nous reposer, de prendre un jour de repos par semaine. Alors si on attend d'avoir vraiment fait quelque chose de parfait pour prendre du repos, on ne le fera jamais sans doute, mais c'est aussi le problème des accros au travail qui ne se reposent jamais. Il y a le repos de l'entrée en Canaan. Après tous ces tours dans le désert, et pourtant, ils savaient ce qui avait été dit. Il va falloir tourner 40 ans parce qu'on veut. Il y en aura deux qui resteront. L'entrée en Canaan, c'est le repos. C'est pour notre vie abondante ici-bas. c'est le fait de faire confiance à Dieu et ne plus se faire du souci sans arrêt. Ne plus se plaindre, ne plus avoir peur, ne plus partager des peurs pour les alimenter et se donner raison d'avoir peur. Fait penser un peu aux gens qui répercutent des canulars sur Internet en disant que s'il y a quelqu'un qui vous demande, qui est nommé Juju, surtout n'ouvrez pas, sinon ça va détruire tous vos fichiers. Et en fait, on regarde, il y a des sites qui citent justement ces fausses peurs, et on peut avoir le repos et dire et envoyer un petit mot à nos amis. En fait, c'est pas le cas. Mais ce repos de l'âme, ce repos de nos émotions, de notre vie, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas fatigué, qu'on ne travaille pas dur, qu'on a des échecs et des joies, mais il y a cette paix intérieure profonde qui fait qu'on est en repos même au milieu de l'agitation et de la tourmente. Il y a le repos du salut, bien sûr, lorsqu'on est sauvé et qu'on sait que pour l'éternité, on sera avec Dieu, on a cette approbation divine, plutôt ce fait que malgré nos péchés, Dieu nous voit comme si nous n'avions jamais péché. Il y a aussi un repos de consécration, de prendre du temps pour être avec Dieu. Est-ce que vous prenez des fois des moments pour être seul avec Dieu ou pour aller réfléchir sur votre vie, sur votre relation avec Dieu? Je sais que je ne le fais pas assez. Je sais qu'on ne le fait probablement pas assez parce qu'on a trop de travail, alors qu'on néglige la chose la plus importante. Et puis il y a le repos du ciel, le repos éternel. Mais Dieu a juré que ceux qui désobéissaient, ceux qui étaient incrédules, n'entreraient pas dans son repos. Et verset 19, la fin, « Ainsi nous voyons qu'ils n'ont pas pu y entrer à cause de leur incrédulité. » Dieu les avait fait sortir d'Égypte pour les faire entrer dans son repos, dans Canaan, dans la terre promise. Le Deutéronome 6,23 dit « Il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. » Très important de ne pas se contenter du salut. Dieu nous fait sortir de notre Égypte, de notre vie de pécheur, nous sépare de notre vieille nature, et puis de ne pas entrer dans le repos qu'il nous promet. Quel gâchis! Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sauvé, mais ça veut dire que votre vie ici-bas, elle n'est pas abondante. Et la cause de tous leurs problèmes, la véritable clé, encore une fois, c'est leur incrédulité. Que Dieu nous sauve de l'incrédulité. Et pas d'une façon biblique, historique, on a parlé de ça dimanche, mais demain, lorsque j'ai une épreuve, est-ce que je fais confiance à Dieu ou pas? Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour l'enseignement que tu nous donnes par des faits historiques, par cette histoire de ton peuple, Seigneur. Merci de ce que tu nous montres la réalité de ce que tu annonces, Seigneur, que tu veux nous donner. Tu veux nous donner du repos, Seigneur, tu veux nous donner de la joie. Combien d'entre nous, Seigneur, malheureusement, ne sont pas des chrétiens joyeux? Nous nous faisons du souci sans arrêt. Nous oublions de te remercier, nous oublions comment tu nous as délivrés dans le passé et nous nous morfondons, nous nous faisons du souci comme les incroyants, Seigneur. Pardonne-moi, pardonne-nous, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Aide-nous à ne pas tomber dans cette maladie de la cardiosclérose, d'un cœur qui s'endurcit, d'un cœur qui manque de foi, Seigneur. Sauve-nous, Seigneur, de l'incrédulité. Par le nom de Jésus, nous prions. Amen.